IDFM Radio, le média valdoisien.
Bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Merci d'être au rendez-vous sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes, diffusée en FM, web radio, DAB+, ou sur notre appli. Ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, une émission à retrouver à tout moment en podcast sur le portail de la radio idfm.fr. Nous en parlons depuis un mois et ça y est, aujourd'hui, mardi 19 mars 2024, le salon Effervescence va ouvrir ses portes dans quelques instants. Évidemment, l'économie en direct est sur place à Herblay-sur-Seine, au gymnase des Beauregards, 20 chemin de la Croix des Bois. Et pour cette 11e édition, un moment attendu pour ce temps fort du monde économique du Val-d'Oise, puisque ce n'est pas moins de 250 exposants présents qui vont passer la journée dans cet espace, avec plus de 1000 visiteurs attendus encore cette année. L'occasion pour IDFM Radio, avant l'ouverture des portes donc de ce salon, de mettre à l'honneur dirigeantes et dirigeants d'entreprises. Bonjour Yasmine Yamaren.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Fondatrice et présidente de MIPI, Société de Transport de Marchandises, une entreprise qui se veut responsable en mettant l'humain et l'environnement au cœur de son processus. Une croissance fulgurante en 3 ans et nous avons hâte d'en savoir plus.
Merci.
À vos côtés, Quentin Tribou. Bonjour Quentin.
Bonjour Jacqueline.
Un grand merci pour votre présence dans nos studios. Responsable développement de e-Lynx, alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, votre entreprise propose toute une gamme de solutions que vous allez nous présenter dans quelques instants. Avec nous également parce que vous êtes exposant sur le salon Effervescence. À vos côtés, Nathanaël Berthe. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être avec nous chez IDFM Radio. Président fondateur de NeoByte Service. Alors, on dit NeoByte ou NeoByte?
NeoByte Service.
NeoByte Service. Spécialiste en infogérance, cybersécurité, mise en conformité RGPD, mais pas que. Vous nous présenterez en détail vos expertises et comme Quentin Tribou, exposant au Salon Effervescence. Merci et bienvenue à vous pour votre présence jusqu'à 11h en direct dans l'économie en direct. En attendant de vous donner la parole, j'ai une annonce à communiquer. Dans 2 jours, jeudi 21 mars à 20h, à la salle des fêtes d'Anguin-les-Bains, l'association Crazy Fun Pembe organise au profit de l'association Élise Princesse Courageuse un concert avec la participation des ensembles Tutti Clarinette et CSP Musique. La participation est libre et je rappelle que l'association Élise Princesse Courageuse a pour mission d'aider les familles et les enfants malades dans leur quotidien, sensibiliser et changer le regard des personnes sur le cancer des enfants et d'aider la recherche en oncologie pédiatrique. Donc n'oubliez pas, jeudi 21 mars à 20h à la salle des fêtes d'Anguin-les-Bains.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et tout de suite, je me tourne vers vous, Yasmine Yamaren. Donc, je vous laisse nous dire qui vous êtes et puis nous raconter votre parcours que je qualifie de hors norme.
Merci. Alors, hors norme, je sais pas, mais c'est vrai que quand je fais des choses, je les fais avec passion. Et là, pour le coup, je suis ravie que ça paye. Alors, moi, j'ai fondé MIPI, qui s'appelait, il y a encore quelques mois, Midi Pile.
Vous nous direz pourquoi Midi Pile?
Oui. Le nom parle de lui-même. Je suis hyper ponctuelle.
D'accord.
Du coup, je me suis dit que le transport, c'est des rendez-vous à ne pas manquer. Donc, j'avais envie qu'il y ait cette notion.
Okay.
De ponctualité. Mais c'est vrai qu'avec des projets que MIPI aujourd'hui sur l'international, j'ai préféré un nom qui résonnait un peu dans toutes les langues.
Plus universel.
C'est ça. Donc ouais. On a changé le nom, mais c'est vrai que quand l'histoire commence, moi à l'époque, je travaillais dans un secteur, enfin dans le textile et le luxe, en supply chain, mais je n'y connaissais rien au transport de marchandises. entreprise. Et j'avais envie de créer une entreprise qui me ressemble. Je pense que pendant le Covid, on était beaucoup à se poser des questions sur nos projets, nos ambitions. Et à ce moment-là, le livreur, c'était... Bon, j'avais ma famille, bien sûr, mais la seule personne que je voyais pendant le Covid, à part ma famille, c'était le livreur. Donc forcément, il a suscité chez moi beaucoup de questions. Et il y a trois questions qui sont la genèse de l'entreprise. C'est pourquoi le livreur, il n'a pas envie d'être garante de l'expérience client ? Pourquoi je ne me fais livrer que par des hommes ? Et pourquoi tout le monde parle de transition énergétique, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Du coup, ok, les trois questions sont posées. Je commence à faire mon étude et les trois réponses que j'ai, c'est que le métier de la livraison, sans aucune surprise, c'est un métier ouvrier. Donc, qui dit métier ouvrier, qui dit très peu de qualifications. Donc, je me dis comment on peut être aussi exigeant avec les livreurs si personne les accompagne à donner du sens à leur métier. Donc, je me suis dit ok, donc il faudrait commencer par donner du sens à ce métier-là et le qualifier. La deuxième question, c'est sur la féminisation du métier du transport. Il y a une énorme pénurie dans le secteur du transport. Ça a un impact direct sur la qualité de vie des livreurs, parce que les livreurs, forcément, s'il n'y a pas assez de monde, on va surcharger.
Ils doublent leurs heures, et bien sûr. Oui.
Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi personne ne pense à ouvrir le métier aux femmes ? Il y a moins de 5% de femmes dans le secteur du transport. Et je me suis dit, ok, donc potentiellement la solution, ça serait d'ouvrir le métier aux femmes. Et en même temps, la majorité des entrepôts sont en banlieue, en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité. Donc je me suis dit, en tout cas, ça résonnait en moi comme une évidence qu'il fallait ouvrir
tout
le métier aux femmes.
Tout était en place pour lancer le projet.
C'est ça. Et du coup, par contre, pour le sujet de l'engagement environnemental, je me suis très vite rendu compte que c'était un engagement que je pouvais pas porter seule, qu'il fallait le porter avec les territoires, les collectivités, le gouvernement et les clients, parce que ça coûte cher de décarboner. Les gens pensent souvent que ça coûte pas cher, mais un véhicule décarboné coûte 2,5 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Donc là, je me suis dit ok, donc il faut que j'aille chercher de l'argent et que j'aille travailler avec les collectivités. Donc j'avais mon constat il y a 3 ans et je me suis dit allez, let's go, on y va, Yasmine, lance-toi dans ce pari fou. C'est vrai qu'il y a 3 ans, on se moquait pas de moi. C'est peut-être trop dire, mais ça faisait sourire les gens.
Oui, oui, parce que votre projet semblait d'une envergure telle que voilà.
Mais c'était mal me connaître. mais parce que, enfin, pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, enfin, c'est comme qu'on construit une maison. Il y a forcément au début la première pierre. C'est ça. Elle paraît pas fantastique. On commence tous de quelque part. Faut juste ne pas lâcher. Alors, moi, il y a 3 ans, je le dis et je le répète tout le temps, mon aventure a commencé avec Les Déterminés, qui est une association du Val d'Oise, chère à mon cœur, et ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont fait comprendre comment fonctionnait l'écosystème business. Et c'est important, l'école, la qualification, autant pour mes livreurs que pour moi, de comprendre comment être entrepreneuse. Et en fait, ça a été le moment le plus important finalement de cette histoire entrepreneuriale, parce qu'ils m'ont compris comment approcher les choses. Et une fois que je les ai compris, c'était à moi d'être à la hauteur de cet apprentissage et finalement de devenir une entrepreneuse accomplie.
Les Déterminés, expliquez-nous, qui sont-ils?
Alors, c'est une association qui aujourd'hui est partout en France et même dans le monde, parce que j'étais aux États-Unis avec eux, qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs ambitieux qui ont des beaux projets, quelle que soit leur histoire. C'est-à-dire qu'on sorte de la plus grande des écoles françaises, ou qu'on n'ait pas fait d'études du tout. Si on porte un projet et qu'en tant qu'entrepreneur, on a la niaque d'y arriver, la détermination, ça porte bien son nom. Mais en fait, on nous accompagne. Il y a un concours aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui candidatent pour des dizaines qui sont prises. Donc ça attire du monde et donc voilà, moi je leur ai prouvé à eux déjà que ça valait le coup de me faire confiance et ensuite j'ai appris, ça dure 6 mois, c'était incroyable. En fait on nous accompagne et on nous présente aussi tout un écosystème et dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré les dirigeants de la BNP Paribas, tout début de l'histoire. Et en fait c'est les premiers qui ont eu confiance en moi, or qu'à l'époque j'avais acheté un camion. J'allais livrer des sushis et des fleurs toute seule. Faut le savoir, l'histoire commence comme ça. Et j'avais une vraie... Enfin, je sais pas, je pense que le message que je portais, et puis potentiellement, je dis souvent qu'on a tous un feu au fond de nous. Et je pense qu'ils ont vu le mien, qui avait juste envie de briller encore plus fort et de se déployer.
De s'enflammer totalement.
Et du coup, la direction de la... Enfin, cette banque qui est aussi importante. Je suis hyper loyale. Donc, quand on m'accompagne et qu'on me donne les clés d'y arriver, je le dis aux formes. Souvent, les gens pendent du toit les banque. Moi, sans la BNP Paribas, j'en serais pas là aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il m'apporte ce premier levier financier qui me permet, parce que le transport et la logistique, ça coûte cher.
Bien sûr, oui, oui. Ça fait partie de mes questions. J'allais vous demander, alors, dans l'ordre. Vous êtes, on est bien d'accord, c'est le Covid, vous êtes confinés, vous avez toute cette réflexion. Et vous décidez donc de quitter votre travail.
Oui.
Comment, voilà.
Pendant le Covid, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant.
D'accord.
J'avais du temps pour moi. C'est la magie, quand même, du temps de ma
vie. Les planètes étaient alignées.
C'est ça. J'ai eu du temps. Alors, par contre, pas tant de temps que ça, mais en tout cas, pas du temps au travail, mais.
Oui.
Mais,
oui, vous n'étiez pas obligé de repartir là où le confinement était levé.
Exactement. Et du coup, j'avais mes deux enfants. Ça veut dire que voilà, ma mission en tant que mère était voilà, j'avais fait ma mission, j'avais fait mes deux enfants, j'avais envie de deux enfants, mes deux merveilleux garçons. Et là, il était temps de m'occuper de mes projets personnels, parce que forcément, quand on fonde un foyer, on met en tant que femme, c'est comme ça. C'est la vie qui l'a décidé ainsi, entre parenthèses, certains projets là. Donc c'était le moment de les reprendre. Et du coup, j'ai quitté mon travail et je me suis lancée.
Donc, vous achetez ce camion, ce premier camion, c'est un ça. Gros camion, non?
Non, 5 mètres cubes.
Faut avoir le permis?
Oui, enfin, faut avoir le permis, mais le permis B suffit.
Ouais, suffit.
C'est des petites camionnettes que vous voyez. Ouais, c'est gros, mais pas tant que ça. Et du coup, je commence à livrer, mais pas que moi seule aussi. J'avais des amis qui travaillaient dans le VTC. Du coup, Covid, qui travaillaient plus beaucoup, vu qu'il y a plus de monde dans la route.
Bien sûr,
qui me file un coup de main. Et du coup, les déterminés prennent quand même beaucoup de temps aussi, parce que c'est un temps d'apprentissage. Du coup, un temps où justement, je trouve le premier levier financier. Et du coup, il me faut le premier client, le premier gros client.
Ouais.
Client qui va me permettre de mettre en place tout ce que j'ai finalement un peu écrit.
De réaliser ses ambitions.
C'est ça, parce que pendant que je livre, j'écris une formation. Je me dis, OK, pour être livreur, il faut...
Oui, c'est ça. Vous restez sur votre réflexion de départ, il n'y a pas de qualification et... Ouais,
c'est ça. Et à ce moment-là, je croise le chemin du leader mondial du e-commerce, Amazon. Du coup, c'est le premier qui me donne ma chance. Et j'arrive à décrocher un contrat. Un magnifique contrat qui me permet de vraiment mettre en place tout ce que je voulais, donc qualification, féminisation, et à ce moment-là ça a été un vrai succès. Et ce succès,
c'est-à-dire il a fallu que vous embauchiez à ce moment-là,
c'est ça, une trentaine de personnes,
d'accord, d'un coup.
Là c'est aussi incroyable que difficile, parce que honnêtement je pense que je dormais presque pas. C'était un travail acharné, mais c'est un travail qui a payé. Parce que c'est un travail qui m'a permis de convaincre les autres. Parce que forcément, quand on arrive à faire un travail de qualité pour un gros donneur d'ordre,
bien sûr,
ça rassure forcément les
forcément.
Autres.
Forcément, oui, ça donne confiance. Mais alors, donc, ça veut dire vous avez ce contrat avec Amazon et Amazon, parce que vous verse des fonds, donc vous
avez. Non, pas du tout. Non. Ça, c'était le travail
le
de la
challenge.
BNP. La BNP m'avait donné les
d'accord.
fonds.
D'accord. Ah oui.
Amazon m'ont donné le contrat.
D'accord.
Et ensuite, il fallait
travailler. Vous
avez
mis en place. Oui. Et Amazon vous a laissé un temps d'adaptation parce qu'il a fallu trouver les livreurs et puis.
Le temps donné à toutes les sociétés de transport, j'ai pas été plus avantagée qu'une société de transport. Et de toutes les manières, à un moment donné, quand on vous fait confiance comme ça, on demande pas de traitement particulier. On délivre, on assume. Et à ce moment-là, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est un mindset. À ce moment-là, je suis une chef d'entreprise. Je suis pas une jeune entrepreneuse qui débute. Je me sens légitime. Alors par contre, moi, je me sens tout le temps légitime.
Ça, vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur.
Je me permets pas de l'avoir.
Ouais.
Parce que quand je vois, parfois, je rencontre des chefs d'entreprise incroyables, je me sens pas limitée, en tout cas. J'ai l'impression d'avoir les mêmes capacités, les mêmes compétences. Alors oui, des fois, ils ont plus de financement que moi, parce que ça reste le début de mon histoire. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, j'ai la tête bien faite, il n'y a pas de raison, on va y arriver. Et c'est surtout, à ce moment-là, avoir la capacité de bien s'entourer, parce que il faut un leader, c'est hyper important. Mais par contre, un leader tout seul, il fait rien, et aujourd'hui, moi, sans mes équipes, j'en serais pas là. Donc, à ce moment-là, il faut avoir la capacité de bien s'entourer.
Merci Yasmine pour cette présentation qui va donner sûrement plein d'idées à d'autres chefs d'entreprise, hommes ou femmes d'ailleurs. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et on reprend cette interview. À tout de suite.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine Yamaren, présidente de MIPI, ex Midi Pile. Donc oui, parce qu'en fait, moi, je pensais quand j'ai vu Midi Pile que c'était une société que vous aviez reprise, mais pas du tout. Vous êtes partie sur ce nom et très vite vous l'avez changé.
Oui, en fait, c'est en revenant des États-Unis et je me suis dit ok, là-bas, c'était la compréhension de Midi Pile, il y en avait aucune. Du coup, je me suis dit ok, si tu veux avoir des ambitions grandes dès le départ, adapte-toi au marché international. Ça paraît fou et peut-être que autant que le début, on s'est fait sourire. Mais je me dis, il faut être prêt à tout.
Mm-hmm. Et MIPI, en revanche, ça sonne bien universellement.
Je sais pas, mais j'ai l'impression. Je me dis, c'est deux syllabes, ça va aller.
Donc vous, alors vous faites le choix d'une livraison responsable et engagée. Votre domaine, c'est plutôt le dernier kilomètre d'acheminement du colis, c'est ça?
Alors on a commencé par le dernier kilomètre parce que financièrement c'était ce qui était plus facile d'accès. C'est les opportunités que j'ai eues. Maintenant l'objectif c'est de devenir un transporteur à part entière. Aujourd'hui on a des poids lourds sur la route. On a des dépôts, on est présent dans 3 régions françaises, Île-de-France, Bordeaux et Lille. L'objectif, c'est aussi d'avoir un ancrage national. Et pour ça, il faut avoir la capacité de proposer à ses clients de les accompagner sur différents maillons de la chaîne logistique. Par contre, c'est vrai que la majorité de notre activité reste le dernier kilomètre aujourd'hui. Mais on va avoir autant des clients qui vont avoir besoin qu'on fasse livrer des produits secs que des clients comme Carrefour, Lidl qui vont avoir besoin qu'on les accompagne sur
Des denrées alimentaires.
C'est ça.
Très bien. Mais donc quand vous parlez de cette formation que vous avez suivie avec les déterminés, oui. Ça vous a vous avez appris ce que c'était que le transport et la logistique parce
non.
que
non, j'ai appris ce qu'était être une entrepreneuse.
D'accord.
Ça veut dire que leur mission, c'est de nous accompagner à faire le 360 degrés de la mission d'un entrepreneur. Donc, un aspect très scolaire, donc ce qui est la finance, la communication, l'aspect commercial, mais pas que. Les déterminés, aujourd'hui, c'est un réseau puissant. Donc, c'est aussi des rencontres. Et on le sait, en tant qu'entrepreneur, des rencontres, ça change la suite des choses.
Complètement, oui. Et donc aujourd'hui, alors vous avez plus de 200 collaborateurs, ça paraît fou en 3 ans. Donc tous, ce sont tous des CDD, des CDI. C'est quoi la forme de contrat ?
Alors tous nos livreurs sont en CDI. Chez nous ou chez nos partenaires, il y a une charte MIPI si on veut être partenaire de notre entreprise. Par contre, la règle, elle est la même pour tous, c'est-à-dire qu'il faut être au moins en 35 heures. Il faut respecter l'engagement de la parité. On a 45% de femmes quand on en compte moins de 5% dans le secteur du transport. Donc c'est un défi qui a été relevé, mais c'est un défi qui est difficile parce qu'il faut aller chercher les femmes et les convaincre.
Oui.
Parce que forcément, d'elles-mêmes,
elles ne viendront pas. Oui.
Et il faut, tous les livreurs sont formés à formation MIPI. On a même des projets de création d'écoles dans la continuité vraiment de cet engagement. Et il faut, faut suivre le management et l'accompagnement MIPI. Moi, je pense que il y a trop de métiers aujourd'hui qui souffrent de pénurie parce qu'on n'en donne pas un sens. Ça veut dire que les gens viennent, sont bons, restent, sont moyens, s'il y a un problème de pénurie, restent, sont pas bons, sortent. Et souvent, on a des clients qui nous disent, mais comment vous avez fait pour récupérer des profils avec lesquels on avait des problèmes, mais chez vous, ils sont brillants. Mais en fait, l'être humain a besoin d'accompagnement, on a besoin de donner un sens. Si on donne pas un sens à ce qu'on fait, on n'a pas envie de rester, que ça soit un poste où on a fait un bac plus 5, où on a un espèce d'échelon hiérarchique plus haut, même si j'aime pas parler d'échelon hiérarchique, à des postes plus manuels, plus ouvriers. On a besoin de donner du sens à ce qu'on fait, sinon on s'en va. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui étaient dans des boîtes qui font rêver de l'extérieur, mais en fait, elles trouvaient plus de sens à ce
l'intérieur,
qu'elles faisaient.
Oui,
elles s'en vont.
C'était la cata, oui. Donc vous parlez de formation, donc vous avez un organisme de formation aujourd'hui.
On est en train d'en développer un. Donc on a mis en place une formation interne que tous les livreurs sont en train de faire et on travaille aussi avec des écoles partenaires comme l'AFT, comme le BM qui nous accompagnent aussi sur des sujets parallèles d'accompagner nos équipes à avoir des diplômes. Les partenariats, c'est aussi important. Les
Bien
clients
sûr.
Sont autant importants que les partenaires pour atteindre nos objectifs.
Oui, l'AFT, c'est une vraie référence.
Oui.
Oui, parce que l'avantage aussi, c'est peut-être que il y aura de la taxe d'apprentissage. Enfin, vous allez créer tout un écosystème aussi autour de votre formation.
C'est ce qu'on veut, et aussi on veut aller chercher les femmes. On veut aller chercher les femmes et aussi les accompagner dans ce sens-là. Donc, une école aussi, c'est quelque chose qui rassure. C'est vrai que on est souvent connu pour la féminisation, même si on fait bien plus que ça, parce que il y a encore, c'était en fin 2023 où le ministre des Transports est rentré en contact avec moi en disant il faut qu'on parle de ce que vous avez réussi à faire. Ça a été une énorme fierté pour moi.
Je comprends.
Ça peut peut-être paraître anodin, mais je me suis dit que si le gouvernement qui...
C'est que le modèle
c'est
plaît.
C'est ça. Donc il faut pas lâcher, il faut vraiment aller au bout des choses et je sais que les collectivités, le gouvernement, France Logistique aussi, avec la ministre Madame Hydrac, ont un regard bienveillant sur ce qu'on vit et ce qu'on fait. Donc je me dis que si tout le monde a ce regard bienveillant, c'est pas pour moi Yasmine, certainement pas, c'est parce qu'on entreprend quelque chose qui mérite d'être entrepris.
Oui, mais c'est aussi parce que vous parliez de ces employés qui n'étaient pas qui étaient moyens dans une autre entreprise et brillants chez vous. Je pense que c'est là où le qu'on le veuille ou non, que le chef d'entreprise sait impulser cette ambiance générale.
Il faut fédérer, c'est une réalité. Oui,
oui.
Il faut fédérer, il faut pas lâcher le cap parce que des fois c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux. de prendre des décisions qui sont pas bénéfiques pour les salariés, mais qui sont bénéfiques pour l'entreprise. C'est aussi un juste milieu, parce qu'on n'est pas une association, parce que l'objectif, c'est aussi, c'est d'être rentable.
C'est
et d'être,
de faire des bénéfices,
exactement.
Bien sûr.
Exactement.
Oui.
Donc, c'est un
c'est
pilotage.
Oui, et c'est le cas.
On est alors, c'est vrai que souvent, les gens nous disent, oui, mais le transport, c'est pas rentable. Alors, nous, on est rentable depuis le début. On a généré 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans, et on a été capable, sur les 2 années, d'être rentable. Par contre, c'est pas facile. C'est un travail de centimier.
C'est ça, oui.
Mais c'est un travail de centimier qui met, ça paye. Donc, c'est que ça valait.
Vous en vivez. En tout cas, vous en vivez,
oui,
vous,
oui,
aujourd'hui.
Et puis, l'objectif, c'est de continuer à croître autant économiquement, que dans ce qu'on fait de bien.
Bien sûr. Alors, on parlait de financement, le financement de toute la flotte, hein, c'est quelque chose d'important. Donc, vous avez 200 collaborateurs, ça veut dire que vous avez une flotte de combien, à peu près?
On va être aux alentours de 160-170.
Ah oui. Et que des véhicules donc électriques?
Non, alors on a une flotte qui est décarbonée. Aujourd'hui, décarbonée, c'est une transition. C'est-à-dire qu'on va avoir des vélos cargo, on va avoir des véhicules électriques, on va avoir des véhicules à gaz, mais on va avoir aussi des véhicules thermiques, parce que aujourd'hui l'autonomie des véhicules électriques ne permet pas d'assumer tous les flux.
Oui,
par contre, quand on a des véhicules thermiques, déjà, on est dans une vraie mission de transition. Ça veut dire qu'il y a des optimisateurs de tournée. On travaille sur l'éco-conduite. On travaille aussi avec les constructeurs pour savoir qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui va être mis en place pour pouvoir transiter. L'objectif, c'est qu'en 2028, 100% de la flotte soit décarbonée, parce que on compte aussi sur ce qui est créé, ce qui est mis en place pour le faire. Et si on prend l'exemple de l'agglomération de Cergy-Pontoise, dans laquelle on a impulsé les premières livraisons au vélo cargo. On a travaillé avec Monsieur Jandon, le maire. Enfin, on a fait un vrai travail de fond avec tout le monde pour y arriver. Ça a été dur. On a travaillé avec nos clients sur la productivité de leur tournée. C'est aussi un long travail de convaincre tout l'écosystème de mettre en place des choses. Par exemple, le vélo cargo dans une ville, s'il n'y a pas des routes qui permettent de faire en toute sécurité, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des boîtes qui ont 100% de véhicules électriques, ça n'existe presque pas. Par contre, le but, c'est de le faire et de le faire tous ensemble. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut de l'argent, il faut une adhésion de tout le monde pour pouvoir décarboner la flotte, et on est en bon chemin, et pour le coup, je suis plutôt contente, parce qu'on a des partenaires qui nous suivent.
Oui, oui. Et donc, votre prochain défi, c'est quoi, Yasmine?
Le prochain défi, c'est de lever des fonds pour pouvoir vraiment pouvoir s'implanter dans le territoire français. Dans déjà 3 belles régions, mais l'objectif, c'est vraiment de le faire, et à un moment donné, il n'y a pas de secret. L'argent fait l'argent, l'argent fait le business. Donc on a fait quelque chose de génial grâce aux banques. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus loin.
D'aller plus loin. Avez-vous eu des retours de concurrents dans ce domaine? Est-ce que vous avez pris une place forcément de d'autres?
C'est vrai qu'au début, on faisait sourire. Maintenant, on devient un caillou dans la chaussure. Mais moi, je dis toujours que c'est, enfin. Alors, un jour, je me souviens, j'avais demandé au directeur général de PayPal quel était son plus grand concurrent, et il m'a répondu à un truc qui me marque encore aujourd'hui. Il me dit, c'est mon plus grand. Il m'a cité Lydia. Il m'a dit, c'est mon plus grand concurrent et mon plus grand partenaire, parce que notre mission ensemble, c'est de dématérialiser la monnaie. Et en fait, ça a fait un écho en moi en tant que jeune chef d'entreprise à l'époque, et je me suis dit, mais en fait, les concurrents, c'est pas que des concurrents, parce que on a une mission commune, c'est de faire comprendre aux gens que avoir une livraison gratuite, c'est pas normal, parce que le transport, ça coûte.
Oui.
Parce que nous, les transporteurs, on va souffrir des mêmes choses. Donc, on a les mêmes missions. La féminisation, maintenant, il y a de plus en plus de sociétés de transport qui mettent des femmes en avant dans leur communication depuis qu'on existe. On a des sociétés qui recrutent des femmes parce qu'ils se sont rendus compte qu'on arrivait à pallier à la pénurie. Donc, ils le font. Et en fait,
Vous devenez un modèle.
Un modèle, je sais pas. Je suis peut-être trop m'auto-flattée, mais je me dis que si on arrive à bousculer, moi je dis toujours, on est là pour bousculer les codes de la logistique et du transport. Si on arrive à le faire à une petite échelle, c'est bien. Je pense qu'on a tous la capacité de changer le monde. Et changer le monde, j'ai envie de dire, pour compter jusqu'à 100, il faut commencer par 1, 2, 3. Ça, je le dis tout le temps. Moi, là, je suis 1, 2, 3 et je compte bien aller à 100.
Encore un mot sur cette formation. Moi, ça m'intéresse d'en parler. Ça veut dire que, au fond, votre modèle de formation pour les transports peut être dupliqué dans n'importe quelle activité? Si on réfléchit bien.
Ben, j'espère bien, parce qu'aujourd'hui, justement, nous, on travaille avec nos partenaires pour créer vraiment des formations qualifiantes pour les livreurs. Il y a plein de choses à faire. Je sais qu'il y a des écoles avec lesquelles, si je pense à l'EBM par exemple, avec lesquelles, quand on s'est lancé dans le projet ensemble de créer des classes dédiées à MIPI, il y a eu un vrai sujet de se dire mais quelle formation est adaptée, partir de l'existant, rajouter des nouvelles choses, et puis c'est quelque chose qui est très légiféré, la formation en France est encore heureux, ça va être un long travail, mais de toutes les manières ça se construit. On ne crée pas des formations qualifiantes et qui sont légitimes aux yeux de tous du jour au lendemain. Ça va passer d'étape en étape. Mais je suis déjà contente de ce qu'on a mis en place en 2 ans, parce que c'est vraiment il y a 2 ans que ça s'est accéléré. Mais il y a encore plein de choses à faire.
Et probablement que pour vos livreurs, ça doit être très gratifiant, parce que ils n'ont jamais eu cette opportunité probablement d'avoir des formations.
Alors pour le coup, pour ceux qui jouent le jeu, c'est génial, parce que il y en a qui sont managers chez nous aujourd'hui, parce que justement ils ont joué le jeu qu'ils ont déjà monté les échelons. On essaye d'apporter un cadre, on va jamais convaincre tout le monde, ça serait mentir de le dire, mais par contre ça se voit, parce que c'est un métier qui souffre aussi beaucoup de turnover, et on a un turnover, on le voit, on a des équipes sur des contrats, j'ai des équipes d'une vingtaine de personnes, en 2 ans j'ai eu 3 départs pour déménagement. Pour moi c'est la plus belle réussite, gens restent, si les gens restent c'est qu'ils se sentent bien.
Bien sûr. Encore un mot, Amazon a renouvelé son contrat.
Oui. C'est notre premier client. Mais maintenant, on a une quinzaine de clients. C'était aussi important. Faut dire à tous les entrepreneurs, être dépendant d'un client. Et de toute façon, ils n'ont pas envie qu'on soit dépendant d'eux. Non. Donc, c'est réciproque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avance avec LVMH, avec ce que je vous disais, Carrefour. On a vraiment un panel de marques qui sont magnifiques et qui nous font confiance. C'est important de dire qu'ils nous font confiance, parce qu'on reste une jeune entreprise, et à chaque fois qu'ils prennent le pari de nous confier un contrat, c'est une confiance, et du coup moi j'ai envie que toutes les équipes de MIPI soient à la hauteur de cette confiance.
Merci infiniment Yasmine Yamaren, fondatrice et présidente de MIPI, pour la présentation de votre activité, puis toutes les valeurs que vous véhiculez. Que faut-il vous souhaiter?
Que ça continue.
Oui.
Que ça continue, c'est bien.
Bah écoutez, bravo à vous. Merci. Et puis revenez quand vous voulez pour nous parler de votre belle entreprise.
Merci pour l'invitation.
Un peu de musique avant de continuer ce numéro de l'économie en direct en plateau mobile à Herblay sur le salon Effervescence. À tout de suite.
Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. J'suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher.
Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
C'est l'économie en direct et ce matin, je viens de recevoir Yasmine Yamaren, fondatrice et présidente de MIPI, qui a dû nous quitter pour d'autres rendez-vous. Mais bien avec nous dans le studio, Quentin Tribou, responsable développement de e-Lynx, spécialisé dans la sécurité de biens et de personnes, et Nathanaël Berthe, président fondateur de Neobyte Service, experte entre autres en infogérance, cybersécurité, mise en conformité RGPD, mais il nous racontera tout ça dans quelques instants. Et j'enchaîne avec vous, Quentin Tribou, donc responsable développement de e-Lynx. Alors, je l'ai dit en préambule, alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès. On l'a compris, votre entreprise est spécialisée dans les solutions de protection. Une société qui existe depuis quand, Quentin ?
Alors, pour vous raconter la petite histoire de la société, elle a été créée en 2017, donc par Monsieur Nouma Adel.
D'accord.
Et il était en fait technicien, il a commencé technicien dans la sécurité électronique, donc à poser des caméras, des alarmes. De fil en aiguille, il avait une fibre commerciale très intéressante, donc il est passé commercial, puis directeur commercial. Et en fait, il s'est rendu compte que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup de choses qui ne matchaient pas, il y avait des incohérences dans les installations, et il s'est dit, avec sa fibre commerciale, pourquoi pas créer une entreprise à mon image, avec les choses que je veux, pour vraiment développer ce secteur dans le meilleur des sens.
D'accord.
Et du coup, c'est la raison pour laquelle il a créé la société e-Lynx.
Parce qu'avant, sa société, ça s'appelait comment ?
J'ai plus le nom.
Vous n'avez plus le nom ?
Non, ouais, j'ai plus le nom, mais c'était une société, ouais, pareil, ouais. Qui agissait en Île-de-France, mais j'ai plus,
ouais,
le nom.
Mmh. Ok, très bien. Et donc... Alors, on sait que dans ce domaine, hein, la technologie évolue presque tous les jours. Donc, le but, c'est d'être tout le temps performant et puis savoir proposer le meilleur à vos clients.
C'est ça. Alors, nous, aujourd'hui, on a une façon de fonctionner qui est assez différente de la concurrence. C'est qu'on fait du sur-mesure et on s'adapte à la clientèle. Contrairement à certains, je vais pas dire concurrents parce que j'aime pas ce terme.
Oui, on va dire confrères.
Des confrères, ouais, ou des partenaires. Parce qu'on va tous dans le même sens. On veut sécuriser et rendre le monde plus sûr. Aujourd'hui, nous, on s'adapte à la façon de travailler de la personne, que ce soit un particulier ou un professionnel.
Une entreprise.
Que ce soit un entrepôt ou une boulangerie, une commune ou toute autre.
C'est-à-dire toute typologie de client, en fait.
Voilà, c'est ça. On va voir la personne en charge de ce projet-là dans l'entreprise. On lui pose des questions, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites, et on va proposer des solutions adaptées. Donc que ce soit de la vidéoprotection, on maîtrise ce secteur à 100%, reconnaissance via de l'intelligence artificielle, de vêtements, de typologie de personnes, de couleurs de chaussures, de port de pays.
Ah là là, oui.
On maîtrise.
Ça va jusque là.
Ça va jusque là aujourd'hui. aujourd'hui, on est capable de dire si une personne en entreprise, elle a pas ses chaussures de sécurité, on peut créer une alarme. On est capable de faire beaucoup de choses. On va maîtriser le contrôle d'accès. Donc, vous connaissez tous le contrôle d'accès par badge pour entrer dans une pièce tierce. Aujourd'hui, on maîtrise l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale en contrôle d'accès. On maîtrise vraiment toutes ces technologies-là.
La reconnaissance faciale et le digital, oui. Quand vous parlez de la couleur des chaussures ou chaussures de sécurité, ça veut dire qu'il y a des capteurs partout ?
Alors, c'est pas des capteurs, c'est des logiciels d'intelligence qui sont liés à la caméra, en fait.
D'accord.
La caméra va analyser l'image. Elle va voir, par exemple, que la personne qui est passée, elle a une corpulence de tel type de corpulence, donc il y a plusieurs critères. Elle va voir qu'elle a un pull rouge. Et en fait, ça va permettre de faire des recherches intelligentes. Donc, pour vous donner un exemple,
il y a des algorithmes qui travaillent.
Qui analysent en permanence, les différentes constances. Et on a équipé récemment le site de Heure Alimentaire à Lille, donc qui correspond à Rungis, mais pour la période, enfin pour le secteur nord de la France, avec tout ce système-là. Et ils avaient des problématiques de recherche pour des palettes qui disparaissaient, des oranges, enfin plein de choses. Et on a mis un système complet d'une centaine de caméras en place sur ce site-là. Et aujourd'hui, ils gagnent quasiment 2 heures de temps de recherche par jour.
déjà il gagne du temps de recherche et puis peut-être s'il y avait des peut-être des c'était des vols ou c'était des emprunts, non, pas forcément.
Alors ça pouvait être des vols, mais il y avait aussi beaucoup de dégradations, oui. Des livreurs qui rentraient dans les quais, qui dévalaient les quais.
Enfin,
il y avait beaucoup d'incidents et ils n'avaient pas la vue sur tout ce qui se passait. Et en fait, chaque locataire du site venait au centre, donc heure alimentaire. Il s'est passé ça à telle heure, est-ce que vous pouvez rechercher? Sauf qu'ils n'avaient pas de système de recherche intelligent, donc c'était très, très long et fastidieux.
Compliqué, oui. Et ce qui fait que leur installation, ils ont un retour sur l'investissement forcément intéressant?
Oui, ils ont un grand retour sur investissement. Donc ça fait 2 mois qu'on a fini l'installation. Et aujourd'hui, ils sont très contents, ils nous recommandent et ça leur permet de gagner du temps sur leurs équipes parce qu'ils ont une équipe qui est dédiée uniquement à la recherche sur la vidéoprotection. Donc ils passent leur journée derrière les écrans à rechercher les incidents sur tout le site et ils gagnent quasiment deux heures par jour de temps de recherche.
Ce qui est précieux, bien sûr. Alors votre cœur de métier, hein, on l'a compris, ce sont des solutions de sécurité électronique adaptées pour lutter contre l'intrusion, l'incendie, le vol, le vandalisme, en fait tout acte de malveillance.
C'est ça, donc on fait de l'anti-intrusion que l'on connaît tous pour les voleurs, les cambrioleurs, les dégradations. On fait également de la protection des personnes. On travaille avec beaucoup de clients dans le médico-social, donc des centres pour les jeunes. Et en fait, on met des systèmes. Alors, c'est des centres un peu particuliers. Il y a plusieurs typologies de centres, mais on travaille avec des centres où il y a des typologies un peu d'autisme, de schizophrénie, des typologies compliquées. Et on va mettre des systèmes pour éviter... pour protéger justement ces patients-là, pour éviter que les patients sortent, pour les mettre dans des zones beaucoup plus confortables.
Là aussi, c'est un système de caméras de surveillance, ça marche comment?
Alors, on a sur certains sites des caméras de surveillance, mais ce n'est pas ce qui est le plus répandu sur cette typologie de clients. On a beaucoup de contrôle d'accès, donc contrôle d'accès aux pièces médicales, aux chambres des patients et à différentes pièces de l'établissement. On a également de l'alarme, mais qui n'est pas anti-intrusion, qui est anti-évasion, on va dire. Ouais. En fait, on la pose dans le sens inverse pour éviter qu'il y ait des personnes qui s'échappent de leur chambre.
Que les personnes s'en aillent, oui. Ouais. Et donc, ces clients dont vous êtes le fournisseur, c'est vous qui êtes allé les chercher? C'est eux qui viennent vous trouver par rapport à vos spécificités?
Alors, moi, en fait, je suis dans l'entreprise depuis 5 ans, donc depuis quasiment le tout début. Et on a commencé, on était 4 et on allait chercher des clients de typologie basique comme des pharmacies, des boulangeries, des petits commerces. Et au fur et à mesure de notre expertise, on a grandi. On a les marques aujourd'hui qui nous accompagnent en direct. Donc, on est référencé par nos fournisseurs qui nous accompagnent vraiment sur toute la mise en place et le développement des nouvelles technologies. Et de fil en aiguille et par notre expertise et notre qualité d'installation, on a eu beaucoup de recommandations, beaucoup de bouche à oreille. Le réseautage a fait beaucoup aussi en notre faveur. Et du coup, on a une typologie de clients qui s'est un peu développée. On fait toujours du petit commerce, mais on fait beaucoup de grosses entreprises, gros entrepôts. On travaille notamment avec la Fédération française de football pour la sécurisation de Clairefontaine.
D'accord. C'est important.
Et on travaille pour une autre typologie avec la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée. Donc on travaille avec pour sécuriser certaines résidences, certaines parties de certaines communes comme Enghien, comme Montmorency, comme Deuil-la-Barre.
D'accord.
Donc voilà, on a évolué avec nos domaines de compétences.
Votre entreprise, elle est basée où?
On est basé à Taverny.
À Taverny, d'accord. Et donc c'est combien d'employés aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, nous sommes 18.
D'accord, très bien.
18, donc on ne sous-traite pas, on est une équipe technique uniquement interne qui est formée en direct chez les marques.
Et donc votre dirigeant doit être satisfait de cette belle évolution, j'imagine, par rapport à ce que vous nous disiez au début.
C'est ça, il en est très satisfait, il en est fier, il pensait pas que ça allait se développer aussi vite et il a tous les jours des nouvelles idées. Et moi, du coup, mon rôle, c'est aussi de l'épauler pour soit canaliser ses idées, parce que des fois, il a des idées qui, ça va dans tous les sens, soit des fois, lui apporter des nouvelles idées, des nouveaux axes de développement. Et il est très content de ce qu'il développe et c'est que le début.
Alors, ce métier, forcément, même si vous êtes à la pointe de toutes ces technologies, je pense que c'est un métier très concurrentiel. Donc, il faut arriver aussi à gérer cette concurrence.
Oui, c'est un secteur très concurrentiel parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'incivilités, de plus en plus de cambriolages. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du coup, ce secteur est très concurrentiel. Donc, ça nous pousse à tout le temps nous renouveler technologiquement. Mmh. Aujourd'hui, je suis très souvent, moi, sur les salons pour aller voir les nouveaux produits chez différents fournisseurs. Je suis tout le temps en recherche sur Internet, sur des sites, que ce soit des sites chinois, des sites des États-Unis, pour vraiment avoir la nouvelle technologie avant qu'elle soit grand public, on va dire.
C'est ça, oui. Vous voulez toujours avoir peut-être un coup d'avance.
C'est ça. Et c'est ce qu'il faut dans ce secteur-là.
C'est ce qu'il faut. Merci, Quentin Tribou. Je propose qu'on fasse une pause et puis je reviens vers vous très vite. À tout de suite.
Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Driving down the road alone. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
C'est l'économie en direct et ce matin, nous sommes en plateau mobile à Herblay-sur-Seine, au salon Effervescence, et je reçois deux exposants, Quentin Tribou et Nathanaël Berthe. Nathanaël, il me vient une question à vous poser par rapport à l'activité de Quentin, puisque vous êtes spécialiste de la conformité des données RGPD.
Oui.
Est-ce que quand on est dans ce milieu, le milieu de Quentin, avec ces systèmes d'alarme, il y a une mise en conformité nécessaire, même voire obligatoire?
Oui, certainement obligatoire, et en plus avec l'arrivée de l'IA Act qui arrive en fin d'année et qu'on va devoir appliquer, eh bien les systèmes de protection dont Quentin nous a parlé, eh bien vont devoir se mettre à jour, surtout au niveau de chaque entreprise qui vont devenir cliente, il y aura des règles à respecter. Ces technologies tournent avec de l'intelligence artificielle. Alors intelligence artificielle, c'est un grand mot, hein. Maintenant, on parle plutôt
d'algorithme.
Voilà, plutôt d'algorithme intelligent, ce qui va permettre justement de pas être trop impacté par ces nouvelles normes qui arrivent. Mais c'est certain que il y a des choses à respecter et la législation est là pour nous le rappeler.
Oui, merci Nathanaël. Alors Quentin, justement, vous êtes en phase à ce niveau-là.
Alors tout à fait. Du coup, donc il a très bien résumé. On a des droits et des obligations sur ce par rapport au RGPD. Donc tout système de vidéoprotection doit être déclaré, qu'il soit sur un lieu d'entreprise ou sur la voie publique. On doit avoir des déclarations auprès de la CNIL qui doivent être faites et acceptées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est très large et on parle plus d'algorithmes, comme il l'a rappelé. Du coup, on est vraiment en phase avec le RGPD puisqu'on ne cible pas des personnes précises. C'est uniquement des attributs.
Oui.
On reste dans une généralité et donc on reste conformément à cette réglementation.
C'est ça, oui. C'est pas voilà, il y a une limite quand même dans ce que vous avez à faire, c'est ça?
Oui, tout à fait. On est loin de la vidéoprotection qu'il y a notamment en Chine où chaque visage est reconnu. Enfin, on est vraiment différent en France. Et nous, on sait vraiment, le RGPD évolue souvent, la CNIL sort souvent des nouvelles réglementations, on se met au goût du jour et on accompagne notamment les entreprises, nos clients, à faire leur déclaration RGPD pour qu'ils soient vraiment dans les clous.
Il y a une sécurisation dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les espaces pour la période des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous êtes partenaire pour cette protection?
Alors aujourd'hui, je vais pas dire partenaire des Jeux Olympiques complets, mais on a certaines communes qui nous font confiance, des communes qui sont terres d'accueil. Donc notamment, on va équiper des gymnases en contrôle d'accès, en portiques détecteurs de métaux, avec de l'intelligence qui permet de détecter où se situe précisément l'objet métallique. Donc c'est des nouveaux portiques. Donc oui, aujourd'hui, on va avoir pas mal de travail sur cette période juin-juillet. On en est très content et ça va faire une belle énergie économique pour l'Île-de-France.
C'est un plus. Si vous deviez exprimer des besoins, quels seraient-ils aujourd'hui, Quentin?
Aujourd'hui, le domaine de la sécurité, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît à travers la télé par Verisure, par différentes marques et différents confrères. J'aimerais bien que le domaine de la sécurité se professionnalise un peu plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de confrères pour qui on était des tout petits au début, qui nous prenaient pas au sérieux. Et aujourd'hui, malheureusement, on arrive à leur reprendre certains clients de plus en plus et de par notre professionnalisme et notre façon de voir les choses, et j'aimerais bien que le secteur se professionnalise dans ce sens-là.
Oui, et quelles sont les idées que vous avez pour que ça se professionnalise? C'est-à-dire des certifications, des formations, comment vous l'envisagez?
Alors, pour moi, il faudrait, oui, de plus en plus de certifications, que ce soit des certifications comme l'APSAD, comme le CNPP qui sont mises en place par l'État, mais aussi des formations par les marques distributeurs, donc les marques qui distribuent l'ensemble des produits de sécurité sur le marché français. Aujourd'hui, le pays qui est leader dans ce type de solution, c'est la Chine.
C'est la Chine, oui.
C'est la Chine, et ils sont très mauvais en tout ce qui est formation, marketing. Donc c'est un point qu'il faudra vraiment développer pour que les équipes soient vraiment au goût du jour.
Donc peut-être le prochain défi comme Yasmine pour Ilinx.
C'est ça. Nous aujourd'hui on a accompagné il y a une école de la sécurité à Argenteuil.
Oui.
Et on les a.
Oui. C'est le campus.
Oui, le campus avec Jérôme Morge.
Enfin, c'était Jérôme Morge, ce n'est plus Jérôme Morge.
C'est plus Jérôme Morge qui a changé complètement de secteur, qui est passé dans le privé.
Oui.
Et on les a accompagnés. Donc on a formé les classes. Ils sont venus dans notre showroom à Taverny. On leur a donné des produits de démonstration. Enfin, on a vraiment accompagné parce qu'on veut vraiment que ce secteur se développe.
C'est ça, oui. Donc, je vois que vous faites ça très, très sérieusement, en effet. Vous avez une actualité à nous annoncer, Quentin?
Une actualité à vous annoncer.
Avec le groupe Addis Group.
Alors, oui. Donc, comme je vous ai dit, Ilinx a été créé en 2017.
Ah, vous dites Ilinx, pardon.
Oui, on peut dire Ilinx. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire Ilinx. Oui. Mais on peut très bien dire Ilinx à la française.
Okay.
Donc, il fait uniquement de la pose et du paramétrage de systèmes de sécurité électronique. Et de fil en aiguille, on a des clients qui nous ont demandé de faire de plus en plus de choses. Est-ce que vous faites de la sécurité physique? Est-ce que vous faites de la sécurité incendie? Et en fait, on a décidé de monter plusieurs sociétés, donc de monter un groupe, donc avec la société Renovadis, donc qui est une société de travaux de seconde œuvre. De seconde œuvre, tout corps d'État.
Oui, oui.
Parce que dans l'installation de sécurité, des fois, on a besoin de faire du terrassement, de faire ce genre de travaux.
Ah oui, en fonction de ce que vous devez installer.
Voilà, tout à fait. Mmh. On a monté aussi la société SMC, du coup, qui est une société de distribution. Donc, qui va nous permettre d'acheter des produits en grande quantité pour, on va dire, faire valoir notre force sur le marché. Donc, qui est entre guillemets la centrale d'achat d'Hilynx. Mmh. Et on a la société EDS qui est spécialisée dans la sécurité ultra luxe. Donc on a un parc de clientèle qui est vraiment ciblé luxe, donc LVMH, le groupe Kering, on fait vraiment des boutiques spécialisées.
Parce que là c'est pas les mêmes, qu'est-ce qui change entre les boutiques de luxe et puis l'entreprise, on va dire, plus classique?
Alors, ce qui change, c'est notamment les cahiers des charges. C'est des architectes de la sécurité qui nous proposent l'installation à faire. C'est pas nous qui sommes force de proposition.
C'est pas vous, oui.
On a différentes contraintes d'installation. C'est plus de l'installation, on va dire, chirurgicale. C'est du travail de nuit, notamment dans les boutiques Place Vendôme. Mmh. Travail avec des gants blancs. Enfin, on est vraiment sur une typologie différente. Donc, on a une équipe technique à part entière pour ce secteur-là. Et donc le but de monter à 10 groupes, c'était vraiment de maîtriser l'ensemble des chaînes de la sécurité, que ce soit la sécurité physique, sécurité incendie, sécurité électronique, sécurité informatique. On ne s'y place pas parce que c'est vraiment un domaine à part entière dont Nathanaël va nous parler après. Donc voilà.
Mais alors, donc, quand vous dites que vous êtes 18 sur Hilynx, à 10 groupes, c'est à part? Enfin, c'est d'autres?
Oui, à 10 groupes, c'est à part. Donc, on a des salariés dans la société Renovadis, deux salariés dans la société SMC, donc qui sont un directeur logistique et un logisticien. Après, on a dans la société EDS une dizaine de salariés.
Ah oui, c'est ça, c'est plus important.
Oui, c'est plus important parce que forcément, ça rejoint un peu notre secteur. Et on a aussi notre partenaire en sécurité physique où là, c'est des contrats différents. Donc, il y a beaucoup plus de salariés. Comme c'est des agents de sécurité, c'est un secteur différent.
C'est compliqué. Oui. Quentin Tribault, vous êtes avec nous également parce que exposant sur ce salon Effervescence, c'est la première fois que vous exposez?
Non, c'est pas la première fois. Il me semble que c'est, enfin moi en tout cas, c'est ma quatrième année à Effervescence.
D'accord, ok.
Donc c'est un salon qui nous tient à cœur. On est présent tous les ans parce que c'est là où il y a la synergie du Val d'Oise. C'est vraiment le
complètement.
On rencontre les gens qu'on voit très souvent via les réseautages, notamment la FFB ou différents partenaires, et ça nous permet de montrer qu'on est présent et qu'on est toujours acteur de la sécurité du Val d'Oise.
Et vous n'avez pas postulé en tant que pour les trophées, puisque non.
Malheureusement non, c'est un peu de ma faute parce que j'ai été un peu débordé en ce début d'année. On a des innovations.
Parce que vous auriez pu, compte tenu de tout ce que vous nous avez dit.
On aurait pu. On a développé des solutions en interne qui auraient pu concourir à ce titre,
à certains trophées.
À ce certain trophée, mais j'ai pas eu le temps de m'y attacher. J'étais vraiment débordé. Bon. Donc peut-être l'année prochaine.
L'année prochaine, très bien. Bien, bah écoutez, merci infiniment Quentin Tribault pour tout cet exposé. Si des auditrices, auditeurs veulent vous contacter, que faut-il faire?
Alors directement, soit sur notre page LinkedIn, donc i-6-lynx, ou soit sur notre site internet www.i-lynx.fr.
Très bien, ben merci beaucoup Quentin Tribault pour votre intervention. On retiendra que vous contribuez à rendre l'activité de vos clients plus simple et plus sereine. Merci à vous.
Merci à vous.
On marque une nouvelle pause et je retrouve ensuite Nathanaël Berthe.
Riabbracciarti sarà come bere miele, volerei fino in Qatar, sfiorando il mare per trovare te. Stavo sognando di stare altrove, nella mia mantella di ricovero, stringendomi a te. Mi piaceva quando avevo sulla tua collana, stare con te sul jet ski era meglio del nirvana. Tu ci pensi mai, senza me come stai? Se muori di sete fai di me la tua fontana. Se vuoi anche con me lì, sempre regarde ai apu che giù. Anche se le cari pensami sempre, finché non ci prende la police.
Pas difficile à avoir, mais difficile à garder. Va y enlever, garde bien. tu me voulais est un baiser. Tu me dis que tu me veux, pourquoi tu te laisses pas aller? J'ai adoré toutes les fois où l'on s'est regardé. J'aimais quand sur mes toits la ronde de ton corps me reste. Et si l'on essayait, est-ce que tu m'en voudrais? Comment te dire adieu quand nos deux cœurs restent rivés? Tu veux voir de comme des amis. Je ne peux regarder ailleurs pour que j'oublie. Jamais.
Non ci prende.
Se vuoi con gli anni, sempre regarde aia pour que j'oublie.
Jamais.
Anche se le mani pensami, sempre finché non ci prende la police. Jamais.
Ti piaceva quando avevo sulla tua collana.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio pour suivre l'économie en direct avec à mes côtés ce matin Quentin Tribou, responsable développement de Hylynx, spécialisé dans la sécurité de biens et de personnes. Nathanaël Bert, président fondateur de Neobyte Service, spécialisé dans la sécurité de l'information, cybersécurité, mais comme je l'ai dit, pas que. Et c'est ce que Quentin va, c'est ce que Nathanaël Bert, pardon, va nous exposer dans tout de suite d'ailleurs, puisque on fait focus sur vous, Nathanaël.
Bonjour Jacqueline.
Alors, en quelques phrases, Nathanaël, peut-être pouvez-vous nous raconter votre parcours et puis la genèse de votre entreprise?
Alors, je vois que vous aimez les histoires.
Alors, j'adore les histoires.
C'est une belle histoire, vous allez voir. Donc, moi, je suis dans l'informatique depuis très longtemps.
Oui.
J'étais responsable d'un service de supervision. Et c'est vrai que dans ma société, on s'est aperçu, et je me suis aperçu, c'était un constat, que les petites entreprises n'étaient pas loties comme les plus grandes. Mmh. Alors c'est une question de moyens, bien sûr, hein, puisque les technologies de sécurité, les technologies de maintenance, tout ce qui est automatisé, coûte beaucoup plus cher. Et c'est en 2012 que je me suis dit, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, parce que c'est pas normal qu'une entreprise, parce qu'elle a, c'est une TPE ou une toute petite PME, n'a pas la même sécurité ou le même niveau de service que les plus grosses entreprises. Mmh. Alors que le dirigeant, généralement, bah, c'est quand même son bébé, c'est bien sa sûr. Vie, c'est toute son énergie. On entendait Yasmine qui ne dormait pas tellement elle avait de boulot. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes. Alors à ce moment-là, ben, j'étais salarié dans une entreprise de services informatique. Mon patron n'a pas voulu à cette époque-là que je m'occupe de ce projet. Donc je me suis mis à travailler seul, ben, le soir, le week-end, tranquillement. Et petit à petit, ben, j'ai conçu mon idée, j'ai conçu un système que j'ai baptisé par la suite NeoOne. Je vais vous en parler juste après.
Oui.
Alors, en 2019, mon patron a disparu suite à un burn-out. Donc, plus de nouvelles.
Carrément.
Je me suis retrouvé seul à la tête de l'entreprise, mais avec aucun moyen financier. Donc, je pouvais pas du tout accompagner les clients de manière propre performante.
Comme vous le
donc,
souhaitiez.
Voilà. Oui. Donc, j'ai quitté l'entreprise. J'ai monté ma boîte en auto-entrepreneur. J'ai appelé tous les clients et ils m'ont tous suivi.
D'accord.
Donc je me suis retrouvé en 2019 auto-entrepreneur avec tous les clients de l'ancienne entreprise. Et j'ai en 2020 bien sûr, il s'est passé que j'ai atteint les objectifs, enfin les niveaux maximum en tant qu'auto-entrepreneur, donc que j'ai dû passer en SAS.
Basculer dans une autre forme juridique.
Exactement.
Mais c'est le meilleur qu'on peut souhaiter à un auto-entrepreneur, j'imagine.
Ah bah oui.
Bien sûr.
Bah j'ai pas eu les soucis, bah j'ai pas eu besoin, on va dire, de me financer, je me suis auto-financé, pu mener à bien
vous
mes
avez,
projets.
Vous avez pu bénéficier de l'apport de ses clients.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il est devenu l'ancien directeur? L'ancien dirigeant.
Je ne sais pas trop.
Vous savez même pas.
Non, j'ai pas eu de nouvelles à la suite. Non, j'ai perdu le contact avec lui.
Alors, vous êtes spécialiste en infogérance, et je voudrais juste préciser que l'infogérance, c'est la prise en charge contractuelle par un prestataire extérieur d'une partie ou de la totalité des ressources informatiques d'une entreprise. Voilà, je trouve que ce mot est important, il est important de l'expliquer.
Exactement, parce que là, on parle de définition de dictionnaire, mais on n'est pas tous des dictionnaires.
Ouais.
Donc, un infogéreur, en fait, c'est celui qui va prendre soin de l'informatique de l'entreprise.
C'est ça.
C'est un petit peu comme si on avait embauché un informaticien.
Oui.
Et qu'il s'occupe des problèmes et des solutions à trouver pour l'entreprise.
Ça, vous êtes le prestataire de service au niveau de l'informatique.
C'est ça, exactement.
Oui, okay.
Or, ça peut être informatique maintenant. Il y a tellement de choses informatisées que ça devient de plus en plus ample. Il y a la téléphonie maintenant qui est informatisée grâce à la VOIP. Donc, en fait, on a beaucoup plus de travail qu'avant. Alors, l'infogéreur, oui, il y en a des tonnes, hein, des partenaires. Alors, moi, je suis pas trop de concurrence pour des partenaires, mais des partenaires infogéreurs, il y en a partout, il y en a de toutes sortes. Il y en a des anciens, des plus jeunes, des nouveaux, des voilà. Ce qui nous met, on va dire, en qui nous différencie entre nous, bien c'est surtout notre cible. Un infogéreur aime beaucoup et bien avoir des grandes sociétés parce que les contrats sont beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants. Moi, mon objectif, c'est surtout pas les grosses sociétés, c'est vraiment m'occuper des personnes qui n'ont peut-être pas directement. Moi, j'ai un copain qui s'occupe de mon informatique. L'informatique, j'en ai rien à faire. De toute façon, j'en ai pas besoin. Je suis commerçant. Moi, j'ai une petite entreprise, mais je serai jamais une cible pour les pirates. Donc, moi, je viens pour m'occuper de ces entreprises-là. Puisque, en
fait, vous restez sur votre idée de base de quand vous étiez dans l'entreprise.
Exactement.
Ouais.
Je vais en prendre soin et surtout leur dire que c'est pas parce qu'ils sont petits déjà que ce sont pas
des cibles. Des cibles aussi. Hein, ouais.
Quand on entend la semaine dernière, quand on a eu la grosse attaque mardi dernier contre les sites du gouvernement, hein, les messages sont clairs. C'est contre la France. Et qu'est-ce qui représente la majorité des entreprises françaises? Ce sont les petites et moyennes entreprises.
C'est ça.
Donc c'est naturel que les petites entreprises seront une cible. Par contre, jamais on n'entendra à la radio que l'entreprise Pierre Dupont et Fils, qui avait que 10 salariés, a dû mettre la clé sous la porte suite à une attaque ciblée contre leurs données, par exemple.
Je disais, on en parlait avant l'émission, je vous disais que moi j'avais assisté à cette conférence l'année dernière organisée par Pleine Vallée et un intervenant disait que ce n'est pas de savoir si on va être l'important c'est pas de savoir si on va être hacké, enfin piraté, c'est de savoir quand. C'est-à-dire que on est tous destinés à être un jour piratés. C'est ça.
Eh bien, si nous utilisons des outils connectés à Internet, nous sommes une cible.
Oui, c'est ça.
Exactement. On entend parler d'intelligence artificielle. Alors, c'est super. On utilise ces outils pour nous aider à rédiger des articles, des sites web, des mails, etc. Ces outils, on va dire, on appelle ça des robots informatisés, vont être de plus en plus efficaces pour justement cibler un maximum de personnes qui sont sur les réseaux. Alors, les cibles actuelles, bien sûr, on connaît bien sûr Windows, qui est une cible, puisque c'est l'OS le plus
répandu. Oui.
Mais on oublie de parler de Mac, qui est très répandu et qui est une grande cible. Les ordinateurs Mac, pourquoi ce sont des cibles? Parce que les gens, ils se disent « Ah, c'est un Mac, j'ai pas besoin d'antivirus ». Ben oui, mais les Mac, justement, ils le savent, ils s'en servent.
Ils vont encore plus sur ce secteur.
Exactement. Les smartphones, les tablettes, c'est des outils qui sont très peu sécurisés, qui sont des cibles. Et l'attaque de la semaine dernière, eh bien, certainement que les pirates ont dû utiliser ce genre d'outils pour pouvoir centraliser cette attaque contre les sites du gouvernement.
Oui, on garde en mémoire ces attaques aussi. Il y a eu le site internet de l'Assemblée nationale, il y a quelque temps. Et puis, les hôpitaux, les fameux hôpitaux qui sont...
Voilà. Et bien là, quand on entend parler de ces organismes, c'est normal, on en parle à la télévision.
Oui.
Après, moi, quand je parle avec quelqu'un qui a une boîte de bâtiment, qui se dit, moi, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Alors moi, je lui réponds, écoute, si un jour tu veux vendre ta boîte, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vas vendre, bien sûr, quelques actifs, mais c'est quoi la valeur de ton entreprise? Ce n'est plus toi, puisque toi, tu vas vendre ton entreprise. tu te vends pas avec. Mm-hmm. Ce que tu vas vendre, c'est la valeur numérique de ton entreprise. Mm-hmm. Et la valeur numérique, eh bien, c'est les fichiers clients, ce sont ce qu'on met sur les sur ces on va dire sur ces bases de données, etc. Par exemple, les informations concernant bien les anciens clients, les nouveaux clients, les informations concernant ses salariés, les informations concernant les sous-traitants, etc. C'est ça la richesse de l'entreprise, toutes ces informations qui font partie de cette richesse. Et c'est ça qu'il faut protéger, et c'est ça qu'il faut expliquer aux dirigeants, et s'ils nous écoutent aujourd'hui, tant mieux. C'est pas simplement parce que vous êtes une petite entreprise que vous serez jamais
la cible. Qu'on n'est pas susceptible d'être piraté. Alors,
j'ai un cas un jour, il y a un de mes clients qui m'appelle et qui me dit, Nathanaël, il faut que tu viennes impérativement, c'est urgent, il faut que tu viennes parce que on a un problème, on n'en retrouve plus nos données. Alors, ce client, j'y suis allé, je me suis présenté. Alors, il faut savoir que ça faisait des mois que j'expliquais à ce client qu'il fallait qu'il y fasse une amélioration de sa sauvegarde, enfin de sa sécurité informatique. Mais bon, c'était un dirigeant qui était proche de la retraite et
une TPE,
j'étais une quinzaine à peu près à l'époque. Proche de la retraite, c'était pas là-dessus qu'il voulait mettre ses sous, c'est sûr. Bon, à l'heure actuelle, c'est difficile hein de se dire est-ce que je vais mettre mon argent, voilà,
oui,
c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Donc il l'a pas fait, et quand je suis intervenu, bien il avait subi une attaque de ransomware donc suite à un mail qui avait été cliqué, ouais. Le ransomware s'est étendu à toute l'entreprise et rentré dans les drives et rentré dans les serveurs, et toutes les données ont été complètement cryptées. À tel point qu'à la fin, il y avait plus de données accessibles.
Dans quelle activité, sans donner de nom, dans quelle activité cette TPE ?
Alors, c'était une société de services, donc qui donnait du service aux entreprises. Je ne vais pas la citer parce
que c'était
quand même quelque chose qui, même pour les salariés, qui était critique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces données qui étaient sur leur serveur, c'est ce qui faisait la valeur de l'entreprise, d'avoir tous ses fichiers clients, tout son drive. On imagine, on arrive le matin, on ouvre l'ordinateur et on n'a plus aucune donnée, plus rien. Alors on va tout de suite sur les sauvegardes. Le problème, c'est que le pirate avait attaqué les sauvegardes en premier, et d'accord, les sauvegardes étaient corrompues. Donc pas de récupération de données. Que vont faire les salariés ? Les commerciaux vont où ? Vont chez qui ? La facturation se fait où ? Ouais. Chez qui ? Et c'est ces informations-là qu'il faut prendre en compte. Et c'était
donc
pas une grosse entreprise.
On veut connaître la suite. Ça s'est résolu comment ?
Ça s'est pas résolu.
Ah.
Ouais. C'est-à-dire que cette entreprise a dû fermer ses portes parce que ça s'est pas résolu.
D'accord.
Je n'ai pas les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé par la suite, mais la rançon était trop énorme, et le risque en plus de payer une rançon et ne pas avoir non plus les fichiers était trop grand et la personne était âgée, donc elle ne voulait pas.
Oui, elle voulait pas se lancer dans une procédure compliquée.
Donc c'est des choses qui arrivent. Nous on le voit quotidiennement. Le nombre d'attaques a depuis 2 ans c'est explosé. Nos outils clignotent de partout et ça c'est génial parce que heureusement qu'on a des intelligences artificielles qui tournent et qui font le travail
permanence.
Parce que humainement c'est impossible de traiter toutes ces informations, hein, c'est clair. Alors je vais prendre mon histoire si tu me permets, Jacqueline.
Oui,
on est arrêté en 2020.
Excusez-moi. Oui, je croyais que vous aviez terminé.
Non, puis en plus tu me laisses parler,
2020.
Alors moi je parle.
Oui.
2020, donc je passe en SAS, donc j'ouvre Neobat Service, et là je sors la première version de mon outil, et c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, NeoOne. Et en fait, j'ai conçu un système qui permet aux chefs d'entreprise, de la petite entreprise, eh bien, de pouvoir bénéficier de tous les services informatiques, infogérance, cybersécurité, mise en conformité RGPD et sauvegarde dans un seul outil. Et à l'époque, je disais, quand j'ai conçu ça, je voulais que ça ne coûte pas plus d'un café par jour, par personne. Alors, je me disais, si on a les moyens de facturer, de payer un café à ses salariés, on a les moyens de me payer cet outil.
Merci Nathanaël. On va garder un petit peu de suspense pour la suite de l'émission. Je propose qu'on fasse une pause et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Je sais même plus ce qu'on s'est dit, ni ce jour-là ce qu'on faisait. Mais dès l'instant où tu es parti, j'ai su que partout tu serais, dans les moindres souvenirs du pays. C'est un peu toi que je retrouve, je nous revois danser en famille, chanter les chansons de Férouz. J'ai vu pousser des fleurs ce matin, j'imagine que c'est toi qui m'envoies de la couleur pour rendre plus facile l'attente dans ce couloir où le soleil est tout noir. C'est pas vrai que le temps guérit, j'aurai toujours mal même si je souris. Je ne crois pas que sous l'averse on puisse masquer, masquer la tristesse. C'est pas vrai que le temps guérit, mais si je dois attendre ici, je ferai tout pour que tu ressentes encore mon amour tant que tu dors. Moi je reste, mais moi je reste à regarder le ciel, ton nom sur mes lèvres. Je me souviens, tu disais princesse, mais sur toi la couronne allait mieux. Tellement d'amour dans chacun de tes gestes, même quand tes mains dressaient mes cheveux. Et quand je me perdrai, je ferai escale en regardant tes anciennes photos, là où tu es parmi les étoiles. Les anges n'ont jamais été aussi beaux. J'ai vu pousser des fleurs ce matin, j'imagine que c'est toi qui m'envoies de la couleur pour rendre plus facile l'attente dans ce couloir où le soleil est tout noir. C'est pas vrai que le temps guérit, j'aurai toujours mal même si je souris. Laisse masquer, masquer la tristesse. C'est fou de croire que le temps guérit, mais si je dois attendre ici, je ferai tout pour que tu ressentes encore mon amour tant que tu dors. Moi je reste, moi je reste à regarder le ciel. Que tu dors, moi je reste.
C'est l'économie en direct et ce matin j'ai le plaisir d'accueillir deux exposants du salon Effervescence. Quentin Tribault, responsable développement de Hylynx, spécialisé dans la sécurité de biens et de personnes, et Nathanaël Berthe, président fondateur de Neobyte Service. Nathanaël, vous nous avez raconté votre histoire, votre belle histoire de création d'entreprise, et puis vous en êtes pas arrêté là, vous avez créé donc un logiciel NeoOne qui regroupe un petit peu tous les services nécessaires pour une TPE-PME, si j'ai bien suivi.
Très bien.
Je voudrais juste vous poser, avant qu'on développe NeoOne un peu plus, vous poser une petite question. C'est par rapport à la mise en conformité RGPD. Moi, je pensais que cette mise en conformité était l'objet d'entreprises qui ne s'occupaient que de ça. Or, vous me dites que non, vous êtes en capacité de gérer cette mise en conformité.
Alors, la mise en conformité RGPD, nous la faisons faire par un de nos partenaires.
Oui.
Un cabinet qui est spécialisé dans le domaine.
D'accord.
Simplement que la mise en conformité informatique concernant les données de l'entreprise, concernant son organisation au niveau numérique, eh bien nous accompagnons ces cabinets en tant que partenaires pour aider les entreprises à atteindre leur objectif de mise en conformité.
Très bien.
Donc NeoOne justement permet d'aider à cette mise en conformité.
C'est important de le dire.
Exactement, grâce justement à cette technologie qui est embarquée, qui protège les entreprises contre le vol de données, mais aussi l'accompagnement que NeoOne permet. Grâce à NeoOne, on a un accompagnement offert sur tout ce qui est support informatique et maintenance. Donc, on accompagne l'entreprise, hein, justement, dans la gestion de ses données, etc., par rapport aux recommandations faites par le cabinet prestataire.
Donc, aujourd'hui, alors, votre entreprise, si j'ai bien compris, fonctionne bien, puisque vous avez un beau portefeuille de clients. C'est vous qui êtes l'auteur du logiciel NeoOne?
Alors, je suis l'auteur de l'idée du logiciel. Bien sûr, j'ai des développeurs qui développent. Mm-hmm. Mais l'idée de ce logiciel, c'est pas d'avoir développé des outils de sécurité. C'est d'avoir conçu une sorte de Lego où je vais pouvoir briquer les outils de sécurité qui se trouvent dans le commerce.
D'accord.
Par exemple, on a embriqué la solution SentinelOne dans notre outil, au moins pour être sûr d'avoir une solution qui est connue mondialement, qui est une des meilleures au monde et qui permette de rassurer nos clients que la technologie, c'est pas une technologie faite par une petite entreprise du Val-d'Oise, mais bien une entreprise qui est une des meilleures au monde dans ce domaine. Et toutes nos couches de sécurité et d'assistance que nous mettons dans notre outil NeoOne, eh bien, ce sont des partenaires français, des partenaires européens ou américains, mais on choisit vraiment les meilleurs. Et la semaine dernière, on a été au salon IT Partners, justement, pour aller voir nos partenaires, pour leur dire un grand merci, un grand coucou, et en plus pouvoir peut-être trouver des nouveaux partenaires et déclencher des nouvelles technologies dans notre outil.
Alors, je disais tout à l'heure à Quentin que son secteur était concurrentiel, le vôtre aussi, forcément. C'est avec des outils comme NeoOne que vous arrivez à faire la différence.
Oui, et puis concurrentiel, oui, bien sûr, des sociétés d'infogérance, il y en a énormément. Mais moi,
il y a du travail pour tout le monde.
Mais c'est qu'il y a du travail pour tout le monde, mais surtout que j'ai pas vraiment de concurrents. Je considère que ce sont plutôt des partenaires, un peu comme Yasmine. Et justement, tous ces partenaires, toutes ces sociétés d'infogérance qui existent et qui n'ont pas la même technologie, mais qui aimeraient bien fournir ça à leurs clients, peuvent nous contacter puisque nous pouvons leur proposer nos solutions qu'ils peuvent revendre à leurs clients finaux, à des tarifs partenaires, bien sûr. Mais c'est vrai que le concurrent, entre guillemets, devient notre partenaire puisqu'il peut revendre nos solutions. Donc,
Et des solutions, comme vous l'avez dit juste avant la pause, qui ne coûtent que le prix d'un café par jour.
Et encore, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Maintenant, quand on voit le prix du café, on peut se payer, c'est pour le prix d'un café par jour, on peut se payer deux licences.
Un café en capsule ou alors
Ah, exactement, voilà.
Un
café en capsule.
Il faut choisir.
Oui, on est autour de 1 euro par jour par
utilisateur. Oui, donc ça reste très, très abordable. Vous avez une actualité à nous annoncer, Nathanaël.
Alors oui, aujourd'hui, je suis content de faire le salon Effervescence pour la première fois.
Oui.
Mon objectif, c'est vraiment de faire connaître au niveau local et départemental, peut-être régional, qu'une entreprise du Val d'Oise, je suis de Cergy, l'idée est née à Cergy, et j'ai tout fait à Cergy, donc d'ailleurs je suis, mes bureaux sont à Cergy-Port, à la Turbine.
Oui, à la Turbine, oui.
L'incubateur, que je remercie grandement. Mais l'actualité, c'est ce salon qui va nous permettre de mettre un nom sur qui nous sommes.
Vous allez voir, ça va circuler fort tout à l'heure.
Oui, puis en plus, on a postulé pour le trophée d'innovation.
Ah, très bien. Voilà, je ne le savais pas, donc oui.
Ouais, bon, peut-être.
Écoutez.
On a été sélectionné hier. Je dois faire, dois aller voir le jury à ce niveau-là tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais remercier la Turbine parce que franchement, et l'agglomération de Cergy-Pontoise, parce que de nous donner l'opportunité, nous, petites entreprises, d'avoir des locaux et un suivi tel que Wakano fait à la Turbine, c'est extraordinaire. Et aussi le BNI, parce que tout à l'heure on parlait un peu des réseaux qui nous aident. Le BNI a été pour moi un
ballon d'oxygène,
Tremplin pour pouvoir sortir de mon anonymat, sortir de ma solitude en tant que chef d'entreprise, et m'a permis aussi d'apprendre à parler.
Écoutez, vous vous en sortez très très bien. Je voulais que vous me parliez aussi quand même un mot sur le lancement de la prochaine version 2025 de votre produit phare NeoOne. Oui.
Très bien. Alors NeoOne, c'est une solution informatique qui vit avec son temps. Donc tous les 6 mois, on revoit un petit peu les technologies qui sont embarquées, si on peut les améliorer. On améliore le moteur, on améliore tout. Donc la version 2025 va avoir un nouveau moteur de surveillance et on aura certainement des petites nouveautés par rapport à la technologie embarquée qui vont apparaître.
Très bien. Écoutez, merci Nathanaël Bert pour ce focus sur votre activité et puis nous avoir sensibilisé sur l'importance de se protéger. La même question qu'à Quentin, si on veut vous joindre, que faut-il faire?
Alors sur LinkedIn, je trouve que c'est un super outil. NeoBat Service, NEOBYTE Service au pluriel, ou sur notre site internet neobatservice.fr.
Très bien. Pour l'un et l'autre, des coordonnées qui se retrouveront bien sûr sur le podcast de l'émission. Donc c'est la fin de l'émission. Juste un mot de conclusion avant de nous quitter, Quentin Tribou, un mot de conclusion.
Écoutez, je suis très content d'avoir participé à cette émission, qui est une émission valdoisienne, qui met en avant des acteurs économiques plus ou moins importants dans des secteurs différents. Donc, merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
Mais merci d'être venu.
Et j'espère que ce salon sera une belle réussite.
J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Nathanaël Berthe, un mot de conclusion.
Oui, un grand merci de m'avoir reçu ce matin, Jacqueline. C'était vraiment un grand plaisir. Et c'est vrai que mettre en avant les entreprises du Val d'Oise qui sont nées dans ce grand département économique, eh bien, c'est un grand plaisir. Et de voir qu'il y a une radio qui nous met en avance, un grand merci, vraiment.
Bah, écoutez, on essaie de remplir notre mission de médias sociaux de proximité et je crois que on est toujours ravis de pouvoir vous accueillir dans ces studios. Voilà, l'émission se termine. On va aller rejoindre. Vous allez aller au jury maintenant du trophée puisque vous allez passer devant un comité. On vous souhaite, on croise les doigts pour vous. Et puis merci infiniment d'avoir été les invités en direct. Et puis un bon salon effervescence. Merci Christophe pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour la réécouter, retrouvez son podcast sur idfm98.fr. Je n'ai pas remercié Clémence qui est à nos côtés et qui vous a filmé, Nathanaël, pendant votre interview. Vendredi prochain, je vous retrouve comme d'habitude à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle semaine et à vendredi.